Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pas mécontent de vous retrouver pour Culture Média. De retour à son horaire habituel, 9h-11h. Dites-le autour de vous, fini les grasses maths. Nous sommes donc ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. En plus, il y a les images et aujourd'hui, ce sera gratiné. Au menu, médias et culture au sens large, vous le savez, tous les médias, toutes les formes de culture. Il y aura le journal des médias de Martin Cangelosi, le journal de la culture d'Hélène Manarino et le retour de son portrait inattendu en direct. Notre infomédia, Donald Trump contre Twitter. Avec plus de 80 millions d'abonnés, le simple compte Twitter de Trump est un média à lui tout seul. Et pour la première fois de son histoire, Twitter vient de le censurer et le président américain a répliqué en publiant un décret pour faire plier les réseaux sociaux. On va vous raconter ce match. Nos invités ensuite pour des nouveautés. D'abord, So Good, c'est un nouveau magazine lancé aujourd'hui, trimestriel papier d'un genre totalement nouveau puisqu'il se propose d'œuvrer, c'est écrit là, pour un monde meilleur. Rien que ça, nous serons avec son créateur Franck Hanez. Et puis, autre créateur messianique, Sébastien Tellier, enfant terrible de l'électro-française, pour son nouvel album Domesticated, album consacré à la vie domestique, c'est-à-dire le ménage, les courses, le rangement. Fallait oser. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, ça vous fait marrer, bah Céline, oui. Dacosta. Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Bonjour Martin Cangelosi.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est bien rangé chez vous?
Ça l'est, plus ou moins.
Place au journal des médias maintenant. Qu'est-ce que vous avez au sommaire bien rangé ce matin?
Des histoires de gros sous avec ceux qui en donnent et ceux qui en manquent. RMC qui arrête la matinale de Jean-Jacques Bourdin et Dominique Rizet qui vient nous chuchoter à l'oreille des horreurs.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Eh bien, comme chaque mercredi soir, TF1 et M6 se disputent la première place. TF1, leader en termes de nombre de téléspectateurs avec sa série médicale de Résidente. 4 millions de téléspectateurs, 16,1% de part d'audience. M6, leader en termes de part de marché avec Top Chef, 3 millions 8 téléspectateurs, 16,6% de part d'audience. À noter que c'est le deuxième meilleur score de la saison pour Top Chef sur M6. Et France 2, juste derrière, qui talonne les deux chaînes privées avec un score plus qu'honorable pour son téléfilm Peur sur la base, 3,4 millions de téléspectateurs, 14,1% de part d'audience.
Culture Média.
Et Martin, on commence ce journal des médias avec un scoop, une info que vous nous révélez ce matin en exclusivité. Le prix qu'a finalement accepté de payer Canal+ à la Ligue nationale de rugby alors que la compétition s'est interrompue.
Eh bien, c'est simple, tout. Canal+ est passé à la caisse et a versé tout ce qui lui restait à payer à la Ligue nationale de rugby. Suspense, on vous révèle le chiffre exact dans quelques instants.
Joris Jurand donc, qui marque le premier essai avec un Enzo Hervé aussi qui a été très précieux dans le jeu offensif de cette équipe de Brive. Et Joris Jurand qui marque un deuxième essai juste avant le retour au vestiaire.
Pour diffuser le top 14 et la D2, Canal+ débourse chaque année 100 millions d'euros. En février dernier, Canal+ s'apprête à verser les 15 derniers millions d'euros de l'année qu'elle doit à la Ligue nationale de rugby. Sauf qu'en quelques jours, forcément, la France est confinée et les matchs sont interrompus. Ce matin, nous pouvons vous révéler que malgré tout, Canal+ va bien payer cette quinzaine de millions d'euros restants. La chaîne avait pourtant fait un choix inverse avec le foot, en ne versant qu'une partie des droits télé restants. On s'en souvient. Alors vous allez me dire pourquoi une telle différence. Voilà ce que nous dit une source proche du dossier. Les négociations n'ont même pas été si difficiles que ça. Une autre source nous explique, tant mieux pour le rugby, 15 millions c'est énorme pour un sport comme ça, alors que ce n'est pas tant d'argent que ça pour Canal. En coulisses, on explique que la chaîne cryptée a voulu remercier la Ligue nationale de rugby qui lui a toujours été fidèle depuis 2 décennies, rien que ça. À l'inverse, Canal+ est toujours très rancunière envers la Ligue de foot qui n'a de cesse de faire monter les enchères entre différentes chaînes de télé, comme quoi la fidélité, ça paye.
On continue avec du sport et Being Sport qui refuse toujours d'en dire davantage sur son plan social.
Depuis plusieurs jours à l'antenne, personne ne faisait figure de rien.
À chaque fois, j'ai des frissons. Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est ravis de vous accueillir. On est en direct, comme tous les jours, dorénavant, sur Beansport. Comme d'habitude, finalement, 12h45, on revient, vous le savez, cette semaine, sur les finales 2013. Au programme, aujourd'hui, les matchs 4 et 5. Le casting a changé. Nous étions avec Rémi et Chris. Voici le retour du chef Xavier Bossion et le retour d'Éric Micou.
Des animateurs et consultants qui ne boudent pas leur plaisir, très heureux de se retrouver en direct après plusieurs semaines d'absence à cause du coronavirus. Mais seront-ils encore présents Dans quelques jours, selon nos informations, 12 CDI sont menacés. Il s'agit de 5 commentateurs, 5 reporters, un chef d'édition et un présentateur. 8 CDD également ne seront pas renouvelés. Il y aura des discussions tout l'été pour savoir qui part, qui reste. La direction de Bein refuse toujours de s'épancher publiquement et se limite à quelques lignes dans un communiqué. La chaîne y reconnaît des fortes tensions sur le marché du sport, elle qui pour la première fois depuis 8 ans ne diffusera pas de Ligue 1 l'année prochaine. Cette réaction à minima du groupe Bein intervient quelques heures seulement après l'arrivée de la chaîne Téléfoot en France à la rentrée, avec les plus belles affiches de première division sur Téléfoot. Sur notre antenne hier, le directeur général de Téléfoot s'est d'ailleurs dit prêt à reprendre une partie des journalistes de Bein.
Et bien, j'imagine qu'il y a son 06 qui va chauffer. Arte France change de présidence.
Et Philippe, si vous voulez postuler, vous avez encore 11 jours pour être candidat.
Non, dans 11 jours, on sera à l'antenne. Donc
Véronique, elle, à la présidente actuelle, doit laisser son poste à un plus jeune, justement, Philippe.
Ou une.
À 70 ans, oui, une à 70 ans, elle a dépassé la limite d'âge fixée par la chaîne. Ne vous inquiétez pas, si vous postulez, aucune candidature ne sera rendue publique. La sélection sera réalisée par 3 personnalités liées à la chaîne, par un représentant des salariés et par un représentant de l'État. D'une chaîne, disons-le, ennuyeuse et pompeuse, Véronique a réussi en quelques années à la repositionner sur la télé mais aussi sur le numérique, avec un ton toujours intelligent, décoincé, parfois décalé, lui permettant d'enchaîner les records d'audience en multipliant par exemple les soirées consacrées au cinéma d'auteur. La chaîne franco-allemande réussit très régulièrement à dépasser le million de téléspectateurs.
Une petite révolution, on ne s'y attendait pas du tout chez nos confrères de RMC. Jean-Jacques Bourdin lâche la main.
On ne s'y attendait pas, surtout que cela faisait 19 ans que Jean-Jacques Bourdin réveillait les Français sur RMC dès 6h du matin avec Bourdin Direct. Cette fois, c'est fini, c'est le Parisien qui donne l'info ce matin dans ses colonnes. Celui qui aura 71 ans dans 10 jours semble être victime de la volonté de la station de rajeunir son antenne et de lui donner un nouvel élan après des sondages jugés décevants. Homme de radio dont il vante la proximité, Jean-Jacques Bourdin est devenu au fil des années un homme de télé. Sa matinale radio est diffusée avec un franc succès sur la chaîne RMC Découverte. Écoutez bien, RMC Découverte est 3e chaîne nationale le matin, juste derrière France 2 et sa grande sœur BFM. Une prouesse alors que RMC Découverte était en avril à la 10e place en moyenne.
Il y a des gens qui ne l'ont encore pas découverte, elle est sur la TNT, il faut aller jusqu'au canal 24. Mais Jean-Jacques Bourdin reste, dites-vous, dans le groupe BFM-RMC.
Exactement, parce que l'élection présidentielle approche et Bourdin conserve son interview de 8h30 à 9h, diffusée à la fois sur BFM TV et sur RMC. À ce moment-là, BFM TV est bien souvent première chaîne de France avec des audiences records autour de 25%. C'est bien souvent chez Bourdin et chez BFM TV que les politiques font leur rentrée. Hier, par exemple, c'est par exemple chez lui que Agnès Buzyn est venue se relancer pour Paris. Un style cash pour celui qui se présente comme un homme libre, avec un micro devant lui inspiré de celui des crooners et des questions-réponses, dit-il, les yeux dans les yeux. En 2007, avec son rendez-vous, il permettait ainsi à BFM TV, 2 ans d'existence seulement, d'être la seule chaîne info à recevoir tous les candidats à l'élection présidentielle. Il s'amusait notamment, rappelez-vous, à demander aux candidats combien coûtait une baguette de pain ou un ticket de métro. Je ne sais pas si vous savez le prix d'un ticket de métro.
Ben non, parce que je ne prends jamais le métro.
1,60€. Pour remplacer Jean-Jacques Bourdin, c'est Apolline de Malherbe, nous rapporte le Parisien, qui tient la corde. L'ancienne correspondante de BFM TV à Washington, en charge actuellement de l'émission politique de la chaîne le dimanche, est aussi sa joker pendant les vacances. À 40 ans, elle permettrait de féminiser l'antenne d'une station parfois considérée comme trop masculine, voire machiste.
En revanche, la baguette, c'est de 95 centimes à 1,30, je vous le dis, puisque j'en achète. On reste dans le groupe Next Radio avec BFM TV qui continue de lancer de nouveaux podcasts.
Chez BFM, on a longtemps regardé les podcasts avec un œil circonspect, jugeant la place déjà prise par d'autres ou bien pas assez rentable. Mais depuis quelques semaines, comme TF1 d'ailleurs, la chaîne info multiplie les lancements sur son site bfmtv.com. On citera notamment Les Dents et Dodo, un podcast qui chaque soir résume l'actu aux enfants. Le dernier né de ces podcasts, c'est L'Instant Où, raconté par le génialissime Dominique Rizet. Pour cette première, la star de la chaîne qui enchaîne les scoops à chaque affaire criminelle est retournée chez les parents d'Alexia Daval. Alexia Daval, rappelez-vous, c'est cette joggeuse étranglée par son mari en octobre 2017.
C'est très très vite monté et Jonathan raconte qu'il a étranglé Alexia à main nue pendant 5 minutes. C'est long, 5 minutes. Les légistes, eux, disent qu'elle a perdu connaissance au bout d'une minute, et bien évidemment, ça écarte totalement la thèse de l'accident. Jonathan dit, lui, j'avais pas conscience. Le lendemain matin de la raclette, Jean-Pierre ouvre son bar comme d'habitude, ou presque. Il a un peu de retard parce qu'ils se sont couchés tard, donc au lieu d'ouvrir à 6h, il ouvre à 6h30. Il y a d'ailleurs, il s'en souvient, des clients devant la porte qui sont pas très contents de le voir arriver à 6h30, mais la matinée se déroule normalement. Jonathan vient boire un café dans le bar de son beau-père.
Alors moi, Jonathan, il est passé me voir le matin, boire un café, comme il faisait de temps en temps.
Dominique Rizet avoue qu'il ne savait pas trop ce qu'était un podcast, ni comment ça marchait. Quand la chaîne lui a proposé, il s'est bien rattrapé. On lui a demandé qu'est-ce que ça change un podcast par rapport à BFM.
Il n'y a pas le regard de la caméra, bien évidemment, comme à la télé. Et ça, ça change énormément de choses parce que nos témoins, ceux qu'on est allés rencontrer, sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus naturels, moins dans le souci du paraître ou de l'image qu'ils vont rendre. Ils sont vraiment dans une conversation avec moi, où on se regarde dans les yeux. Et là, on est assis, eux, les parents d'Alexia, et moi, en face, et dans leur maison. Et bien évidemment, ben, ça prête aux confidences, parce que cette maison, leur fille Alexia l'a habitée avec eux, leur gendre Jonathan Daval l'a habitée aussi. Eux me disent, ils venaient nous voir quand Alexia avait disparu, quand on a retrouvé son corps après donc sa mort. Et il s'allongeait là dans ce canapé où vous êtes assis et il pleurait là tous les soirs.
Et on peut vous révéler en avant-première que le troisième numéro de ce podcast reviendra sur l'affaire Hamida Djandoubi. C'est le dernier homme à avoir été condamné à mort en France. Dominique Rizet a rencontré celle qu'il avait torturée pendant des jours. Elle n'avait jamais parlé. Son fils n'a d'ailleurs appris l'histoire de sa mère que très récemment.
Merci beaucoup Martin Cangelosi. À demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
À suivre l'infomédia du jour. On va parler des relations de Trump avec Twitter et ça chauffe en ce moment. C'est Corentin Célin, historien et spécialiste des États-Unis, qui nous rejoint dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Et si le bras de fer entre Donald Trump et Twitter avait une incidence sur nos usages des réseaux sociaux partout dans le monde? Avec plus de 81 millions d'abonnés, le simple compte Twitter du président américain est un média à lui tout seul. Et la semaine dernière, Twitter a pour la première fois signalé un message de Trump. La mention « Vérifier les faits » a été accolée à deux tweets dans lesquels le président dénonçait la nature, je cite, « frauduleuse » du vote par correspondance dans le processus électoral américain. Pour Twitter, cette information était largement exagérée. Colère de Trump, qui a même publié dans la foulée un décret pour limiter la publicité sur Twitter et sur Facebook. Et hier, c'est un autre réseau social, Snapchat, qui a décidé de ne plus promouvoir les messages de Donald Trump. Pour en parler et pour compter les points, nous sommes avec Corentin Célin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialiste des États-Unis et chroniqueur pour le site d'information lesjours.fr. Tout d'abord, les chiffres, je le disais, Trump a plus de 81 millions de followers sur Twitter, également 28 millions sur Facebook et 20 millions sur Instagram. Je le disais, Snapchat, réseau très prisé des jeunes, a accusé Donald Trump d'inciter à la violence raciale et a fait savoir qu'il ne ferait plus la promotion de ses messages. Mais ce bras de fer entre Trump et les réseaux sociaux a commencé avec Twitter. Petit rappel des faits, c'était le 26 mai. Comment tout cela a commencé, Corentin Célin?
Alors, tout cela a commencé par par plusieurs tweets de Trump où, une fois de plus, il remettait en cause le vote par correspondance, hein, qui évidemment revient en question à l'occasion de l'épidémie de Covid-19. Et ces tweets, pour la première fois, ont été marqués comme à vérifier, c'est-à-dire renvoyés à un site de fact-checking promu par Twitter lui-même, ce qui a déclenché la fureur de Trump. Mais en vrai, ça fait bien plus longtemps, puisque ça fait environ un an que Trump dénonce une censure des propos conservateurs, des idées conservatrices qu'il porte par Twitter, qu'il accuse d'être une firme libérale de gauche californienne qui voudrait censurer les opinions conservatrices.
Qu'est-ce qui n'allait pas dans le message de Donald Trump aux yeux de Twitter ?
Alors, simplement parce que, en particulier, hein, il y avait plusieurs choses, mais en particulier parce que Trump affirme partout que le vote par correspondance provoque des fraudes massives, sauf qu'il n'y a jamais eu aucune étude scientifique pour le prouver. Et par ailleurs, on peut rappeler qu'il y a actuellement, et avant même le Covid-19, il y a 5 États aux États-Unis qui pratiquent le vote uniquement par correspondance. Mmh. Et jamais, il n'y a jamais eu dans ces cinq États, dont un État d'ailleurs très conservateur, l'Utah, il n'y a jamais eu de cas de fraude. Donc évidemment, dire que c'est de la fraude massive, qu'il va y avoir de la triche électorale, c'est une affirmation qu'on peut considérer effectivement très hasardeuse.
Quand le président Trump écrit ce genre de tweet, il le sait, il y va de bonne foi ou est-ce qu'il sait qu'il va remuer la tambouille, si j'ose dire ?
Alors, il sait très bien ce qu'il fait parce qu'il faut bien rappeler que Twitter a été un outil essentiel pour lui d'abord de conquête du pouvoir, puis d'exercice du pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé un rêve qu'avait entretenu un Berlusconi autrefois, ou même en France, un Bernard Tapie à une certaine époque, c'est-à-dire de passer par-dessus les médias traditionnels. C'est-à-dire qu'avec ce compte Twitter, il s'adresse sans filtre, sans contre-pouvoir de la presse, directement aux États-Unis, et il peut faire passer son message de façon directe, percutante, les 280 signes, et sans prendre le risque d'être comparé aux faits, d'être ramené aux faits. Or, justement, c'est ce que vient de faire Twitter, et ça, il ne peut pas le supporter.
Juste d'un mot, c'est lui-même, de ce qu'on sait, c'est lui-même qui écrit, il écrit lui-même, il fait valider par un conseiller, ce sont des conseillers qui écrivent et c'est lui qui valide. Qui est derrière le compte Twitter de Donald Trump ?
Alors, de ce qu'on en sait, c'est du 100% Donald Trump. D'ailleurs, il faut rappeler que contre les usages et contre ce qu'on pouvait penser, il tweete toujours depuis son compte personnel, qui est donc devenu un compte officiel, et il a totalement délaissé le compte officiel de la présidence, de celui qu'il aurait dû occuper du président Trump. Donc c'est bien lui qui tweete, c'est très personnel, et il ne laisse jamais son iPhone à personne.
Alors, rebelote deux jours plus tard, on est le 28 mai, le président américain réagit aux affrontements qui sont survenus à Minneapolis après la mort de George Floyd, cet afro-américain asphyxié par des policiers, et Twitter a cette fois carrément masqué son message. Qu'avait écrit Trump, Corentin Célin ?
Alors, effectivement, trois jours plus tard, Trump a suggéré que dès que les émeutes commençaient, il y aurait une répression par des tirs, par des fusillades. Autrement dit, il menaçait les émeutiers de se faire tirer dessus par les forces de l'ordre.
Pardonnez-moi, je vous interromps une seconde. La traduction française, je ne sais pas ce que c'était en anglais. Les pillages seront immédiatement accueillis par des balles.
Exactement. Alors, c'était une phrase en plus qui avait une consonance historique, puisqu'elle avait été prononcée telle quelle il y a plus de 50 ans par un shérif raciste blanc de Miami en Floride à l'époque. Et donc, évidemment, Twitter en a conclu que c'était une phrase qui incitait à la violence, qui appelait à la violence. Et donc, c'est pour cela qu'elle a été masquée.
Donald Trump s'est mis en colère contre Twitter. Le patron du réseau social Jack Dorsey persistait à signer. Trump a répondu. De quelle manière ? On va vous le dire.
On continue dans l'infomédia du jour à parler des relations compliquées de Trump avec les réseaux sociaux dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Donald Trump et ses relations tendues avec les réseaux sociaux, relations tendues avec Twitter. On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec Corentin Célin, historien et spécialiste des États-Unis. Philippe.
Je fais un rappel des faits. Donald Trump a vu l'un de ses tweets assorti d'une réserve de Twitter, puis deux ou trois jours plus tard, un autre carrément censuré. Le patron de Twitter, Jack Dorsey, a prévenu que Twitter, je le cite, continuera de souligner les informations incorrectes ou contestées qui sont liées à des élections. Et là, pour se venger, le 28 mai, Donald Trump a publié un décret qui permet aux régulateurs américains des télécoms, la FCC, de faire en sorte que les réseaux sociaux n'appliquent pas de censure politique dans leur stratégie de modération. Tout ça est un petit peu complexe. En clair, ça veut dire quoi ?
Alors, ça veut dire tout simplement que Trump se pose d'abord en champion du premier amendement de la Constitution des États-Unis qui, rappelons-le, prône la liberté absolue d'expression. Il se fait le champion de cette liberté d'expression qui est très chère au cœur de son électorat conservateur.
Je le rappelle, juste un mot pour que les gens comprennent ici en France, et par exemple aux États-Unis, on a le droit de dire que les nazis étaient des types bien.
Alors, tant qu'on n'incite pas à une violence immédiate et potentiellement mortelle ou dangereuse, très dangereuse, on peut effectivement avoir une liberté d'expression totale. Et c'est ce que défend Donald Trump. Pour le faire, il a affaire à une loi qui a été votée en 1996 par le Congrès des États-Unis au tout début d'Internet, quand Internet était encore vraiment une jungle balbutiante. Cette loi prévoit que les hébergeurs de réseaux sociaux n'ont pas de responsabilité éditoriale, n'ont pas de responsabilité sur un contenu qui est publié par d'autres. Donc ils peuvent pas être attaqués en justice ou très, de manière très difficile. Ils peuvent être responsables en justice. Et Trump a dit à l'organe de régulation, la FCC, qui fait appliquer cette loi, c'est pas normal, puisqu'avec moi, ils font justement un travail d'éditeur où, en fait, ils font valoir leurs opinions à eux sur les miennes en m'empêchant de les exprimer. Mmh. Et donc, ils n'ont pas le droit à l'immunité judiciaire puisqu'ils font un travail d'éditeur. Et donc, ils demandent à la FCC de développer une interprétation de la loi beaucoup plus restrictive qui, en limitant l'immunité dont bénéficierait Twitter, par exemple, le forcerait à laisser parler et à laisser s'exprimer toutes les opinions.
Oui, mais quand ce décret va-t-il entrer en pratique, si tant est qu'il entre un jour en pratique ?
Alors, en fait, il faut bien effectivement dire que c'est d'abord un geste politique pour dire au socle conservateur, radical, féru du premier amendement de la Constitution, je suis avec vous, moi je suis votre président Donald Trump et je vais me battre pour votre liberté d'expression. Mais dans les faits, les chances que ça arrive au bout sont très faibles. D'une part parce que l'autorité de régulation, la FCC, est pas très chaude pour se mêler de régulation des réseaux sociaux. Elle est très peu à l'aise. Hein. Il y a beaucoup de ces cinq membres qui ont dit déjà dans le passé qu'ils n'étaient pas très chauds. Et d'autre part, on parle d'une loi qui a été votée en 1996. Et en fait, c'est la loi qu'il faudrait changer. Or, cette loi, à l'époque, avait été votée par les républicains de droite et les démocrates de gauche ensemble. Mmh. Comment imaginer aujourd'hui qu'ils se mettent de nouveau d'accord pour une telle loi ? Donc, c'est un décret qui risque quand même d'être largement, on va dire, symbolique de la part de Donald Trump.
C'est davantage de la politique, dites-vous, ce qui est d'autant plus paradoxal qu'on sait que Donald Trump a fondé toute sa communication sur Twitter. Je le rappelle, 81,7 millions de personnes qui le suivent à travers le monde, c'est complètement considérable. Alors on se dit, si Trump déteste autant Twitter, pourquoi ne pas supprimer son compte ? Et un journaliste lui a posé la question et il a répondu, il a dit « Si on avait une presse juste, je le supprimerais. Rien ne me ferait plus plaisir que de supprimer mon compte Twitter. » Il le pense ou il ne le pense pas du tout ?
Alors, je pense pas, parce qu'il semble y prendre un tel plaisir que ça lui manquerait, il y aurait un effet de manque. Mais sur le calcul politique, Trump a construit toute son identité politique par la détestation des médias traditionnels. Il a été un des premiers à deviner que, plus encore que les politiques, les médias traditionnels étaient détestés par une partie de l'opinion. Et il a construit son ascension politique sur... les médias mentent parce que les médias sont de gauche, tandis que moi je suis conservateur, et donc mon compte Twitter vous permettra d'avoir accès à un véritable récit d'information non filtré par des médias gangrénés par le politiquement correct. C'est pour ça qu'aujourd'hui il dit « j'aimerais bien le supprimer, je ne peux pas », parce qu'il sait très bien que c'est un outil fantastique pour faire passer un message sans le filtre du contre-pouvoir de la presse indépendante qui le ramènerait au fait. Donc effectivement, il y a une part d'ironie dans sa phrase, mais effectivement, c'est aussi une réalité politique parce que ça fait partie de son ADN politique.
Et puis, il y a quelque chose d'absolument passionnant, c'est qu'il y a une bataille dans la bataille, parce que si Trump est, entre guillemets, censuré sur Twitter, il ne l'est pas du tout sur Facebook, alors qu'il publie exactement les mêmes messages, des copier-coller, sur les deux réseaux sociaux. Quelle est la position de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook ?
Alors, Facebook et Mark Zuckerberg en particulier ont clairement, si vous me passez l'expression, baisé la babouche de Donald Trump.
C'est-à-dire je vous passe l'expression.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils se sont soumis à ces desiderata. Il y a même eu plusieurs rencontres entre Zuckerberg et des conseillers de Trump. Pour une raison très, très, très concrète, c'est que Facebook, c'est beaucoup plus gros que Twitter, c'est un géant qui est en situation monopolistique sur en particulier la pub sur les réseaux sociaux, etc. Et depuis environ un an, le ministère de la Justice fédérale, contrôlé par Trump, a lancé une enquête anti-monopole, une enquête qui pourrait amener à une procédure antitrust contre Facebook, qui est un géant. Et donc Facebook, qui a peur d'éventuelles actions en justice anti-monopole, se montre beaucoup plus conciliant avec Trump, et par ailleurs, Facebook aussi gagne beaucoup d'argent grâce aux publicités politiques payées par les campagnes, et en particulier la campagne de Trump, et ne veut sans doute pas perdre cette manne financière que sont les publicités politiques payées par les campagnes, et en particulier celle de Trump qui est très active sur Facebook.
Dernière question, en quelques instants, la position de Zuckerberg n'est pas partagée par tous les salariés de Facebook. Plusieurs cadres ont publiquement exprimé leur désaccord sur Twitter. Est-ce que Mark Zuckerberg, il y avait une réunion qui devait se tenir, est-ce que Mark Zuckerberg est revenu sur ses positions depuis, en quelques mots, Corentin Célin ?
Non. Pas du tout, et il ne revient pas sur ses décisions, et parce que je pense qu'on est vraiment dans du stratégique d'entreprise. Il sait que son entreprise pourrait être attaquée en justice pour sa position de monopole dans le monde des médias et des réseaux sociaux, et lui, il pense à l'avenir de son entreprise, et il sait qu'actuellement, le pouvoir fédéral, c'est Trump, et qu'il faut surtout pas se fâcher avec Trump.
Merci beaucoup, Corentin Salin. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis, ça s'est entendu, et chroniqueur pour le site d'information lesjours.fr. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.
Notre prochain invité est Franck Hennez, le patron du groupe Sopress. Il vient nous parler du lancement du nouveau magazine du groupe qui s'appelle So Good. Et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Franck Hennez.
Bonjour Franck Hennez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes journaliste, vous êtes le patron fondateur de Sopress, un groupe de presse atypique qui a fait le choix du papier et ça marche. Vous éditez le magazine SoFoot et surtout Society, bimensuel, qui a un peu révolutionné les news magazines en France. Il y a également Pédale, consacré au cyclisme, comme son nom l'indique, et Tampon, comme son nom l'indique, consacré au rugby. Et L'Étiquette, qui traite de mode masculine. Et là, en plein confinement, en pleine sortie de confinement, vous lancez un magazine papier, un trimestriel, que je montre à la caméra pour qui nous regarde sur europe1.fr, dont l'ambition n'est pas mince, c'est écrit ici « Pour un monde meilleur ». Rien que ça, c'est quoi le projet?
Le projet est assez simple en fait, c'est de faire un magazine qui mette en avant uniquement les femmes et les hommes qui se battent pour un monde meilleur. Donc plus juste, plus équitable, plus équilibré, plus responsable, etc., etc.
Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve dans le numéro 1?
Par exemple, dans le numéro 1, on trouve un portrait de Xiu Martinez, qui est un jeune rappeur amérindien qui se bat contre l'inaction climatique de son pays, les États-Unis, et donc qui a attaqué le gouvernement américain contre ça, et qui est à la tête d'un mouvement qui s'appelle Earth Guardian, donc une sorte de Greta Thunberg du moment,
ouais,
on va dire. Il y a un grand entretien avec Nadia Murad, qui est prix Nobel de la paix, qui parle de la condition des femmes.
Ah, c'est incroyable ce que vous en parlez, je vais quand même le dire. Elle est prix Nobel de la paix à 25 ans, mais elle a surtout été esclave sexuelle à 19 ans. Elle vient de la communauté yézidi. Elle a été enlevée en Irak par des membres de Daesh après que tous les hommes de sa famille ont été exécutés. Interview très forte, je veux dire pourquoi je la cite, par Hélène Coutard, qui est la rédac-chef et qui n'a que 26 ans. Ça aussi, c'est nouveau dans la presse. De confier les rênes à des gens très très jeunes.
Ouais, c'est dommage que ça soit nouveau, mais bah Hélène a largement le niveau pour diriger So Good, elle le fait très très bien.
Parmi les gens exceptionnels dont vous parlez, il y a Sana Marin, ouais. 34 ans également, j'ai découvert son âge, j'avoue, je ne m'étais jamais penché là-dessus. C'est la première ministre de la Finlande qui est considérée depuis 3 ans comme le pays le plus heureux du monde. Donc on n'est pas chez les bénis oui, c'est ça que je veux dire. C'est pas du messianisme, tout à l'heure j'ironisais, mais c'est pas du tout ça. Et en pleine crise sanitaire, elle est dans les sondages d'opinion à 85% d'opinion favorable, comme quoi on peut faire des bonnes choses et vous faites un truc formidable. Vous avez noter les 5 bonnes idées finlandaises appliquées. C'est du journalisme de solution que vous faites dans So Good.
C'est exactement ça. C'est de dire, moi, depuis que je lance des magazines, on me dit c'est la crise. Et depuis que je suis tout petit, on me parle de la crise. Et en fait, on en avait un peu marre. On avait envie de montrer que, effectivement, rien n'est rose. Mais il y a des gens qui se battent pour que ça soit meilleur. Et c'est peut-être bien aussi de regarder le verre à moitié plein plutôt que toujours le verre à moitié vide. Donc c'est un peu ça, So Good. C'est un peu montrer qu'il y a des gens qui se battent et qui font des choses bien.
Et puis il y a Marc Bogé, dont je parlais, parce que c'est lui qui est le rédac-chef de L'Étiquette, le guide du vêtement masculin, qui donne des conseils pour s'habiller vintage, c'est-à-dire sans polluer. C'est pas seulement une affaire de mode, c'est aussi une affaire d'environnement.
Il y a aussi un côté serviciel et on explique aux gens, enfin on essaie d'expliquer aux gens comment se nourrir de manière responsable, comment s'habiller de manière responsable, etc. etc.
Et alors, vous expliquez aux gens comment vous-même, vous avez fait votre journal de manière responsable. Ici, il y a une infographie, le cycle de vie de notre papier, comment vous faites pour imprimer, comment même vous faites pour coller les pages, parce qu'il n'y a pas de colle dans ce journal.
Non, on a fait un magazine sans colle, on a fait un magazine avec du papier recyclé, et petite innovation pour les abonnés, on n'a pas de film papier, c'est-à-dire qu'on a réussi à trouver un système pour imprimer directement les adresses des abonnés sur le magazine. Donc ce qui est génial, parce qu'on n'a pas de film papier, ce qui des fois peut être un peu problématique dans les circuits de la poste, parce que certains magazines peuvent être abîmés, mais pour l'instant on a très peu de plaintes de magazines abîmés.
Ah oui, donc... C'est-à-dire que si l'encre s'en va, on n'a jamais son magazine.
Alors il y a ça, et puis il y a le côté, tu sais, c'est des machines comme ça, et puis ça reste du papier, donc s'il n'y a plus de film protecteur, il y a un petit risque, mais on a tenté le pari, parce qu'on s'est dit ça serait bien de réussir à faire un magazine sans film plastique, Et pour l'instant, ça fonctionne.
Je reste sur la couverture du magazine. Je le rappelle, on peut voir les images sur europe1.fr. C'est présenté comme un film. Il y a écrit, au-dessus du titre, il y a écrit « Sopress et Ulule présentent ». C'est qui Ulule? C'est quoi? Comment avez-vous travaillé ensemble?
Alors Ulule, c'est une plateforme de financement participatif, donc où les gens peuvent mettre leurs projets en avant et puis espérer des financements de la part du grand public ou d'entreprises qui pourraient s'intéresser à leurs projets. Et en fait, Loïc et Sarah d'Ulule sont venus nous voir il y a quasiment un an en nous disant voilà, nous on reçoit 1000 projets par mois dont une grande partie sont super et sont à impact positif, et il y a peu de médiatisation de ces projets et c'est dommage. Qu'est-ce que vous en pensez? Et nous, ça faisait écho avec le fait que dans Society, on avait fait des couvertures avec des anonymes qui avaient très bien marché, avec Paul Duhan qui avait fait un algorithme pour résoudre le chômage, avec Greta Thunberg qu'on avait fait avant tout le monde, etc.
Ouais.
Et bref, donc du coup, on s'est dit, bah, ensemble, faisons un magazine. Ça serait vraiment cool.
Alors,
et voilà,
eux-mêmes ont lancé un plan de financement. Combien de préabonnements? Le chiffre est colossal.
Ouais, on a 15 000, plus de 15 000 même préabonnés. Pour l'instant.
Donc ils sont abonnés, ils vont tous recevoir le journal.
Ouais.
À condition que la Poste n'égare pas l'encre sur la première page ou la dernière. Vous restez avec nous, Franck Hannes, parce qu'on va parler du business model. C'est bien beau de faire des bons journaux, mais il faut ensuite les vendre.
Mmh. Un nouveau magazine pour le groupe Sopress, il s'appelle So Good, magazine dédié à l'optimisme et à celles et ceux qui font bouger les lignes. On continue à en parler dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Franck Hannes qui est notre invité ce matin, le patron et fondateur du groupe Sopress, pour le lancement de leur nouveau magazine lancé aujourd'hui qui s'appelle So Good.
On va parler du business model, comme disent les gens de marketing. Il n'y a aucune publicité dans le journal, c'est évidemment un choix, simplement de la vente en kiosque et en abonnement. Louise, quel objectif d'abord de vente en kiosque?
Bah, si on pouvait en faire 30 000, ce serait génial. Mmh. Après, on va voir, l'état des kiosques est un tout petit peu en ce moment difficile. Il y a eu une crise terrible de la distribution, donc là, ça repart. Donc on va voir, j'espère qu'on ne sera pas trop bloqué.
Vous étiez un petit peu dans l'hypothèse. J'ai lu que vous n'aviez jamais fait aucune étude de marché avant un lancement de journal dans votre groupe Sopress. C'était pareil pour So Good, ouais. Vous l'avez lancé comme ça?
Ouais, aucune étude de marché.
D'accord.
Ça sert à rien.
Ah bon?
Bah, non, parce que tu ne peux pas demander aux gens ce qu'ils aimeraient lire. Alors qu'on essaie de faire des choses qui sont nouvelles et originales, donc c'est compliqué de dire aux gens et ça vous aimeriez le lire? Bah je sais pas, je connais pas. Bah tant mieux.
Vous savez ce que disaient les études de marché avant le lancement de l'iPhone? Elles disaient que les gens ne voulaient pas d'un téléphone sans touche. Ils en ont vendu 1 milliard. Voilà, c'est juste ça. Merci les études de marché. Alors il y a avec vous, il n'y a pas de publicité, mais vous adossez à ce que vous appelez des entreprises pionnières. Il y en a 23. Ouais. Je vais citer Veolia, la Société Générale, BNP Paribas, LVMH, Danone, la SNCF, Nissan, les autoroutes Sanef, les fromageries Bell, Contrex. Vous avez fait un stage d'été au MEDEF?
Non, on a essayé de rencontrer des gens qui avaient envie de faire bouger les entreprises dans lesquelles elles étaient,
ouais.
Et qui avaient pris conscience que le monde ne bougerait pas si les grandes entreprises ne bougeaient pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire « Ah, les grandes entreprises, c'est le mal ». Si les grandes entreprises décident de bouger, le monde change, en fait.
Comment avez-vous réussi à les convaincre? C'est ça qui m'a étonné, vraiment.
Eh ben, concrètement, on a fait des dîners. C'est fou, hein. On a fait des dîners chez un type génial qui s'appelle Bruno Doucet, qui est un chef, qui nous a dit bah, « Venez, on fait des dîners chez moi, on invite plein de gens. »
Chez lui?
Chez lui.
Non, je veux dire pourquoi cette question a l'importance. Parce que les grands patrons, c'est des gens qui ont l'habitude d'aller dans des très 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 bons restaurants.
Ouais, là, non, c'était à la bonne franquette. Hein.
Ouais.
C'était très bon.
Ouais.
C'était très très bon, mais c'était chez lui. Et puis, voilà, on faisait des blagues, on racontait un peu nos histoires et on leur expliquait qu'on voulait lancer un magazine qui s'appelait So Good et qu'on voulait pas mettre de pub dedans. Et donc, on essayait de creuser avec eux des solutions pour le financer, en fait. C'est-à-dire qu'on les a... Ils étaient partie prenante. Alors, il y en a qui ont plongé, celle que tu as citée. Il y en a qui n'ont pas plongé, mais qui ont proposé des idées aussi. Qui ont dit, bah voilà, vous pourriez peut-être faire comme ci, comme ça,
et
etc.
Alors, justement, de quelle manière ils vous aident, alors? Alors, il faut échange marchandises ou...
Non, une idée très simple, en fait, est venue, a été de leur dire, bah écoutez, peut-être que si... Ce magazine a vocation à inspirer les lecteurs et les lectrices. C'est ça, le but. Or, vous avez des salariés, vous avez des partenaires. Quand vous êtes une grande entreprise, peut-être ça serait une bonne idée d'essayer aussi de les inspirer et de leur donner une fibre entrepreneuriale aussi, à tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'ils puissent se dire, ok, moi aussi, je peux faire changer le monde.
Ouais.
Parce que eux, les gens qu'on rencontrait, c'était
des
acteurs
changeants. Pardon, j'ai rien compris. Concrètement, ils font quoi?
Concrètement, ils abonnaient leurs salariés.
Voilà, c'était ça ma question. Le magazine ne s'arrête pas au papier. Vous allez également organiser des événements partout en France avec Ulule. Ouais. C'est arrêté à cause du confinement. Ça va démarrer.
Ouais,
et
septembre.
Si oui, quand? En septembre. Ça sera quoi les événements?
Ben, l'idée, c'est de faire venir les gens qui sont dans ce magazine. Donc, par exemple, Axiu Martinez, qui devait venir début juin, bon, qui est bloqué au Colorado, mais qui viendra, j'espère, en septembre, et faire des conférences. Et lui, il fera aussi un petit concert hip-hop aussi, puisqu'il est quand même rappeur à la base, pour en essayant de montrer, ben voilà, que finalement, ce qu'on raconte dans le magazine, on va le faire vivre en vrai aux gens.
Mais les événements, ça sera pas seulement des concerts, pas seulement de la musique.
Non, ça sera avant tout des conférences, en fait. Des conférences des différents protagonistes du magazine qu'on met en avant.
Comment, du point de vue financier, la question média, le groupe Sopress que vous dirigez, que vous avez fondé, comment vous avez vécu le confinement? D'abord, je dois préciser, vous avez connu une très belle année 2019. Ouais. Vous n'êtes pas du tout un petit magazine qui vivote. 300 000 euros de bénéfices, ai-je lu, pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Mais là, pour le premier semestre 2020, ce début d'année, vous annoncez une perte sèche de 5 millions d'euros.
Alors, on a fait plutôt 18 millions d'ailleurs de chiffre d'affaires, mais c'est pas 5 millions de pertes, c'est 5 millions de manque à gagner, ce qui est
d'accord.
Pas exactement pareil.
Parce que moi j'ai lu perte sèche, je me suis dit waouh.
J'ai lu aussi, mais c'est 5 millions de manque à gagner, ce qui est pas pareil.
Et
5 millions de pertes sèches, je serais peut-être pas au micro.
C'était justement ma question. Parce que je me souviens, il y avait des huissiers qui sont garés en bas.
Il y a des huissiers qui sont venus prendre mes
enfants. Blague à part, comment vous avez réussi à tenir, tant est que vous y êtes tenu?
Eh ben on tient, on arrive à ne licencier personne, etc. Alors c'était compliqué parce qu'on n'avait plus de revenus, puisque les annonceurs avaient déserté les magazines, on a dû fermer notre salle de concert qui est Trabendo, on a arrêté de faire des films parce qu'on produit des films, on ne pouvait plus rien tourner.
Vous avez profité des dispositifs de chômage partiel?
Ouais, un petit peu, mais c'est rien, enfin c'est rien, c'est très bien, mais c'est peanuts, je crois que ça nous fait économiser 200 000 euros, ce qui est rien du tout pour à notre échelle, malheureusement.
Pour un groupe de 18 millions, comme je l'ai bien dit.
C'est c'est pas énorme. Non, ben on fait des efforts.
Et à cela s'ajoute la crise de Prestalis. Ouais. Et alors, vous avez monté avec d'autres une coopérative indépendante, Céline ou Céline, racontez.
L'idée, c'est qu'aujourd'hui, les éditeurs indépendants sont peu représentés dans les institutions des grandes messageries, donc MLP et Prestalis, et surtout chez Prestalis, ils n'étaient pas représentés. Et donc, du coup, on voulait exister, avoir une part de voix et montrer que quand on est un indépendant et qu'on a monté son magazine, c'est pas comme si on était directeur général d'un magazine et qu'on passait chez le client ou chez quelqu'un d'autre le mois d'après. Nous, c'est nos magazines, c'est nos salariés, c'est nos potes d'ailleurs qui sont salariés. Mmh. Et donc, on a envie de les défendre et de révolutionner petit à petit le système de la distribution de la presse, parce que je pense qu'il est aujourd'hui pas du tout adapté à l'époque, en fait. On est en 2020 et on distribue la presse comme si on était en 1960. Donc, c'est un problème.
En même temps, c'est aussi une tradition. Y a qui avec vous?
Avec nous, il y a plein de magazines. Il y a des groupes aussi, aussi différents que Panini, que Île-de-Garde, que
les
Cahiers du cinéma, que voilà.
Vous avez oublié le plus important, le Journal de Mickey et Picsou Magazine.
Évidemment, qui est en plus qui a l'initiative du projet.
C'est vrai?
Ouais, bien sûr.
J'en reviens pas que ce soit Picsou Magazine qui se plaigne des finances. Je trouve ça absolument
non, mais c'est
magnifique.
Un indépendant. Emmanuel, c'est un indépendant, c'est un entrepreneur et effectivement, il génère beaucoup d'argent, mais voilà.
Avant la crise et le confinement, vous disiez que tous les titres de votre groupe Sopress étaient ou sont rentables.
Ouais.
Est-ce que vous visez l'équilibre pour So Good ou est-ce que c'est d'une certaine manière un geste militant?
Non, on vise l'équilibre. C'est pas que je veux pas faire de gestes militants. On fait des gestes militants. On estime que faire de la presse aujourd'hui, c'est un geste militant. Mais malheureusement, on n'a pas le luxe de pouvoir être en déséquilibre. On a gagné 300 000 euros l'année dernière. C'est très bien, mais on va en perdre 2 millions cette année.
Parfois, il y a des groupes, vous le savez très bien, qui ont un journal auquel ils tiennent énormément et qui est déficitaire et dont ils compensent les ventes par d'autres du groupe.
Ouais, on sait pas faire ça, nous. On a arrêté Dada pour ça.
Ce que vous savez faire, c'était ça. Dada, c'était consacré au cheval et ça n'existe plus.
Ouais.
So Good, c'est en vente en kiosque. Maintenant, les kiosques ont réouvert. C'est un trimestriel pour la modique somme de 6,90€. Merci Franck Hanès d'avoir été avec nous.
Merci
encore en direct. Culture Média continue évidemment après le rappel des titres de 10h. Place à la culture avec le chanteur Sébastien Tellier qui sort un nouvel album électro parce que ça marche bien avec le ménage, c'est lui qui le dit. Et puis, c'est un grand retour aujourd'hui, Hélène Manarino, pour son portrait inattendu en direct. Dans Les Indispensables, une série avec un casting de rêve recommandé par Margot Barallon, de la bande dessinée. Les nouveautés arrivent enfin en librairie. Mathieu Charrier vous a sélectionné 3 coups de cœur, notamment le tome 2 d'une BD très attendue. Je ne dis que ça dans un instant. C'est le Journal de la Culture, juste après ça.